France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre, à la technique ce matin, c'est Grégory Watt. C'est le troisième volet de notre série « Où va Israël ?», bientôt 2 ans après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, le malaise dans l'armée face à une guerre sans fin.
Nous sommes les mêmes réservistes et soldats qui ont tout laissé tomber le 7 octobre 2023 et se sont précipités sur les fronts pour accomplir notre devoir afin de protéger notre peuple. C'est précisément ce même sens du devoir qui nous pousse à refuser d'y retourner et à faire entendre notre voix pour résister aux tentatives de Netanyahou de tout sacrifier à sa propre survie politique.
Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « ce que j'ai fait, ça me pose problème ». Ils ne voulaient pas tuer, ils ne voulaient pas participer au meurtre. Et ils se sentent très mal avec ça, sur le plan moral. Ce n'est pas la majorité des gens. Généralement, ils savent très bien pourquoi ils sont partis à la guerre. Mais oui, pour certains, c'est un vrai problème.
Netanyahou veut que cette guerre ne s'arrête jamais. C'est comme ça qu'il maintient sa coalition avec l'extrême droite. Parce qu'elle veut une guerre éternelle pour créer des conditions propices au retour des colons dans la bande de Gaza. C'est contraire aux intérêts d'Israël. C'est contraire aux intérêts du peuple juif.
Pour un mort dans la gloire, il y a 5 blessés graves, 20 blessés légers, 50 traumatisés, restes d'armées cabossées, où ceux qui ont échappé au destin de héros morts se retrouvent misérables vivants. Statistiquement, depuis le Shabbat noir, la masse lugubre des gens comme lui explose tous les scores. À son avis, on n'a pas attendu cette date pour être tous flingués de la tête. Mais maintenant, c'est le niveau au-dessus et chaque famille israélienne a son syndrome de stress post-traumatique. D'ailleurs, on en parle avec l'acronyme anglais PTSD. Dit parce que ça revient trop souvent dans les conversations pour le prononcer en entier. Yaniv a commencé en 2014 à faire des crises de panique. Itaï, c'est pareil. Depuis Gaza, il y a 10 ans, il ne supporte plus les barbecues et il ne s'assoit pas dos à une porte. Quitte à choisir, Noam aurait pioché pour lui-même. Une souffrance dans ce genre-là. Dans un roman qui vient de paraître, Les Certitudes, signé Marie Semelin, le réserviste Noam ne passe pas une nuit sans être réveillé par ses draps mouillés d'urine. Il sait très bien ce qui lui arrive, la même chose qu'au reste du pays. Et peut-être sait-il aussi que les enfants de Gaza, ceux qui sont restés en vie, eux aussi, ils se font pipi dessus. Et c'est parce qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils ont peur en permanence et parce qu'ils n'ont aucune raison de subir cette guerre. Le sort des enfants de Gaza est rarement mis en avant dans leurs doléances. Il n'empêche, les militaires sont de plus en plus nombreux à expliquer publiquement leur désaccord avec le gouvernement de Netanyahou, en particulier au sujet de la récente offensive terrestre sur Gazaville. Peuvent-ils être écoutés? Que pèse-t-il face à d'autres soldats, très nombreux aussi, qui commettent des crimes de guerre et les affichent sur les réseaux sociaux, ou aux militaires sionistes religieux qui approuvent l'annexion de Gaza et de la Cisjordanie? Bonjour Amélie Ferret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste, responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI. Vous faites paraître aujourd'hui avec Pierre Néron-Bancel le rapport Glaive de fer, une analyse militaire de la guerre d'Israël à Gaza dans la collection Focus stratégique de l'IFRI. Bonjour Sami Cohen.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes politiste, directeur de recherche émérite au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Tuer ou laisser vivre, Israël et la morale de la guerre. Votre livre a paru cette année aux éditions Flammarion. Alors, pour commencer, parce que la flottille humanitaire qui se dirige vers Gaza approche des côtes. Elle est entrée il y a quelques heures dans la zone où tous les passagers se sentent particulièrement surveillés par les drones israéliens et vulnérables. Dans quelle mesure, Sami Cohen, son arrivée à bon port à cette flottille dépend de la bonne volonté de l'armée israélienne au-delà du gouvernement israélien?
Écoutez, d'abord, je dois vous dire, il n'y aura pas d'arrivée à bon port. L'armée va tout faire pour intercepter les navires, comme elle l'a fait dans le passé. Elle va essayer d'arrêter les principaux activistes et de les expulser à partir d'Israël.
C'était couru d'avance, c'est-à-dire ça ne peut plus en
sûr,
être autrement.
Bien sûr, l'armée ne peut pas accepter que cette flottille arrive à bon port et qu'elle remplisse sa mission d'aide humanitaire. Ça, c'est pas possible pour elle. Et donc, ça a toujours été comme ça. Vous vous souvenez, il y avait le raisonnement de la flottille Mavi Marmara en 2011, qui s'est très mal passé. C'est très mal passé, elle s'est soldée par la mort de plusieurs activistes pro-Gazaouis à cette époque-là. Maintenant, l'armée a appris à raisonner, a appris à intercepter, elle les arrête et elle les expulse à partir d'Israël. Il n'y aura pas d'autre chose, hein. C'est absolument évident.
Amélie Ferret, c'est vrai qu'on pourrait se dire à partir du moment où cette flottille apporte de l'aide humanitaire et que l'armée, depuis quelque temps, en tout cas certaines personnes dans l'armée, ça reste quand même minime, une lettre de 550 signatures par ici, quelques généraux qui s'expriment par là, mais l'armée pourrait dire là on est vraiment dans le registre de l'humanitaire, on va laisser passer cette flottille, c'est impossible d'imaginer ça.
Oui, c'est impossible d'imaginer ça. Effectivement, il y a un blocus maritime qui est imposé à la bande de Gaza. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait escorter le navire jusqu'à un port qui est contrôlé par Israël et ensuite renvoyer les personnes dans leur pays. C'est encore moins possible, si vous voulez, que les militaires refusent d'obéir aux ordres pour acheminer de l'aide humanitaire, parce que au contraire, même si effectivement, évidemment, il faut toujours le rappeler, l'armée israélienne, c'est pas un bloc monolithique, et donc c'est des individus qui sont parfois en désaccord avec leur hiérarchie. Il y a quand même, et ça, moi, je l'avais beaucoup vu dans les entretiens que j'avais fait pour faire la recherche que vous avez citée, une appréhension militaire de l'aide humanitaire. C'est-à-dire, on va utiliser l'aide humanitaire, et en particulier on va utiliser le levier en fait de la ration calorique à des fins militaire. Et moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que parce que le but quand même des Israéliens, c'est de libérer les otages. C'est ça qui compte le plus dans la psyché à la fois des militaires, mais aussi des familles et des civils qui vivent tous les jours en Israël. Et il m'avait expliqué que finalement, s'il y avait un vrai siège, comme des sièges antiques, sur la bande de Gaza, le Hamas rendrait les armes en 2 semaines et que donc ce qu'il fallait, c'est juste avoir le courage de couper complètement les vivres. Donc moi, ce que je trouve intéressant quand on parle de l'armée aujourd'hui, c'est précisément l'articulation entre la rationalité militaire. On a une mission, on veut faire un blocus maritime, on veut faire telle et telle opération, on veut libérer les otages. Et en fait, la logique génocidaire, c'est-à-dire les conséquences que ça a pour la population gazaoui.
Avec la certitude aussi, depuis le départ, qu'à l'armée israélienne, que les bombardements sur Gaza vont conduire la population gazaoui à se révolter contre le Hamas pour que ça cesse. Évidemment, ça n'a pas pu se produire, y compris parce que les Gazaouis sont totalement affaiblis et pour mille autres raisons qui ne le sont pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, ces Gazaouis, et en particulier dans la ville de Gaza, là où la flottille humanitaire voulait pouvoir distribuer les vivres, ces Gazaouis sont encerclés, combattus par l'armée israélienne. Qui sont aujourd'hui, Sami Cohen, ces soldats qui ont été envoyés à Gaza City, donc la ville de Gaza que l'armée a totalement investi au début du mois. Il était question de remobiliser 60 000 réservistes, mais de ne pas les envoyer sur place. Donc qui sont aujourd'hui ceux qui sont dans la ville de Gaza?
Qui y sont? C'est essentiellement des unités de l'armée régulière. Les 60 000 réservistes ont été recrutés, ont été appelés, mais dirigés vers d'autres théâtres d'opérations moins dangereux pour eux. C'est-à-dire au nord du pays, en Cisjordanie, ils ont relevé des unités de l'armée régulière envoyées dans la bande de Gaza. Tout ça est fait pour calmer, en fait, le courroux de beaucoup de réservistes qui hésitent à répondre une énième fois à l'appel de l'armée. Et donc, c'est ça, c'est des unités de l'armée régulière pour l'essentiel.
Plus que des conscrits, ce sont plutôt des professionnels qui sont...
Non, l'armée régulière, c'est des conscrits.
Les conscrits font partie de l'armée régulière, bien sûr. Oui, pardon.
Encadrés.
Mais donc des très jeunes.
Encadrés au plus haut niveau par des officiers professionnelle, partir du grade de capitaine et au-delà.
Amélie Ferré.
Voilà, justement, là, peut-être qu'on peut faire un point sur le format de l'armée israélienne pour cadrer un peu l'émission, parce que ce n'est pas forcément clair pour tous les auditeurs francophones. En fait, donc, on a une armée qui est finalement assez restreinte. On a une armée d'actifs, c'est-à-dire des gens qui sont professionnels, d'à peu près 170 000 personnes. Et sur ces 170 000 personnes, il y en a 100 000 qui sont des jeunes qui font leur service militaire.
Donc, de 18 à 20 ans.
De 18 à 21 ans pour les garçons, 18-20 ans pour les filles. Et sachant que, donc eux, ils sont comptés comme armée professionnelle, mais en fait, c'est quand même des jeunes qui ne sont pas forcément au même niveau que le corpus d'officiers, qui sont à peu près de 60-70 000 personnes, qui, eux, en fait, tiennent l'armée israélienne. Et à cela s'ajoute 300 000 à peu près réservistes, sachant que 300 000, c'est le format de l'armée française. Donc voilà, ça permet d'avoir quand même quelques repères en tête, qui, en fait, là aussi, ont un rapport avec l'armée qui est assez hétérogène. Quand vous êtes réserviste pour l'armée de l'air, en fait, vous allez dans la réserve, vous suivez, enfin, vous êtes assez assidu. Pour l'armée de terre, il y a des niveaux d'assiduité qui sont extrêmement variables. Et donc là, en l'occurrence, en Israël, il y a quand même beaucoup de réservistes qui, en fait, sont des gens qui ont déjà fait leur service militaire, qui ont une vie familiale, qui ont une carrière, et qui se disent, mais nous, on ne veut plus aller à Gaza, pas forcément pour des raisons morales, mais aussi parce que, en termes de carrière, en termes de famille, et en termes de contraintes, simplement, sur leur vie, ils ne veulent plus y aller. Donc là, moi, le chiffre que j'avais, mais évidemment, c'est des estimations, parce que tout ça, c'est classifié, c'est à peu près deux tiers des effectifs qui refusent de se rendre, en fait, quand ils sont appelés pour faire la réserve.
Deux tiers des effectifs, on parlera de ceux qui ont, sur cette question-là, des objections morales à apporter tout à l'heure dans le focus avec le photojournaliste Martin Barzilay. Alors, ces réservistes, 300 000 ont été mobilisés après le 7 octobre, donc des gens dont la guerre n'est pas le métier. Est-ce que beaucoup, par ailleurs, sont venus de loin, des réservistes qui vivent à l'étranger aujourd'hui, ou des volontaires, simplement, Sami Cohen, qui, après le 7 octobre, ont décidé de rejoindre l'armée israélienne? D'ailleurs, est-ce que ça se fait aussi facilement que ça?
En fait, étant donné le contexte tragique du 7 octobre, en fait, tout le monde a répondu de manière spontanée. Il y avait même des gens qui n'ont pas été appelés, qui ne faisaient pas partie des 300 000, qui sont allés quand même. Il y avait un sentiment de devoir de répondre aux défis sécuritaires, de rassurer la population, d'aller défendre le pays. Il y avait un sentiment que le pays était menacé. Et donc, pratiquement tous ceux qui ont été appelés, et même au-delà, ont répondu à l'appel. Voilà, c'était ça un peu le tableau. Aujourd'hui, ce sentiment-là d'avoir à remplir un devoir est en train de s'émousser considérablement. Je ne sais pas s'il y a deux tiers des effectifs des réservistes qui l'ont répondu. Certains disent beaucoup moins, 10 à 15%. On n'a pas les chiffres exacts, mais il est évident qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour un réserviste qui sait que ses camarades sont au front, sont en train de prendre des risques, de dire non, moi j'y vais pas. C'est extrêmement difficile. Certains l'ont fait, mais de manière vraiment, je pense, assez difficile, assez minimale.
En août dernier, l'armée israélienne a annoncé vouloir mobiliser des jeunes des États-Unis ou de France, les pays où vivent les deux plus importantes communautés juives de la diaspora. L'armée qui estime à 10 000 le nombre de jeunes mobilisables dans ces deux pays. Alors il y a déjà un programme qui s'appelle MAAL, qui concerne des volontaires étrangers dont le service militaire est raccourci pour eux à 18 mois en Israël, mais ils doivent d'abord faire leur alia, donc immigrer en Israël avant d'être intégrés à l'armée. Donc je ne sais pas si là, en l'occurrence pour ce programme-là, l'armée a décidé de simplifier les choses. Vous le savez, Amélie Ferret ?
Non, sur ça, je ne sais pas exactement, mais en fait, la réserve d'hommes principale pour l'armée, en réalité, ce sont les ultra-orthodoxes. Et là, on a une évaluation à peu près 60 000 personnes qui pourraient être mobilisables, en fait. Et par ailleurs,
on a bien rappelé lundi qu'ils étaient toujours exemptés de service.
Exactement. Ce qui est une source de tension aussi en Israël. En fait, dans la doctrine militaire française, quand vous voulez être performant en termes tactiques, il faut qu'il y ait des facteurs de supériorité opérationnel, donc ce qui vous donne l'avantage. Et dans ça, il y a la performance du commandement, c'est-à-dire l'adhésion que vous avez avec le commandement. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué pour une partie de la population qui, justement, fait des efforts, va à la réserve, met entre parenthèses sa vie, de se dire que on a toute une population à l'intérieur même du pays, qui par ailleurs est une population qui contribue pour partie à mettre de l'huile sur le feu et qui veut justement, pour partie évidemment, parce qu'en fait, comme d'habitude, et vous l'avez montré dans votre émission, les ultra-orthodoxes, c'est pas un bloc monolithique, donc il y a différentes tendances, mais qui pour partie... soutient en fait l'idée du grand Israël. Donc c'est très difficile de se dire que eux ne sont pas mobilisables et que du coup c'est simplement aux non-religieux de porter ce fardeau. Et par ailleurs, il y a une équation économique. C'est-à-dire que comme les réservistes, en fait, il faut compenser les salaires qu'ils ont quand ils sont envoyés à l'armée. Donc ça coûte quand même assez cher. Alors que justement, les ultra-orthodoxes, eux, bah, comme la majorité ne travaille pas, ça coûterait aussi beaucoup moins cher pour le budget de l'État de les mobiliser.
La Banque d'Israël estime à 53 milliards de dollars le coût de la guerre contre le Hamas jusqu'en 2025, du 7 octobre 2023 jusqu'en 2025, y compris parce qu'il faut payer les salaires des réservistes. Est-ce que la société israélienne compte toujours autant sur son armée, malgré l'échec du 7 octobre, Sammy Cohen? J'en profite pour vous poser une question dont j'ai beaucoup de mal à trouver la réponse. Où en sont aujourd'hui les enquêtes? Alors, pas enquête interne de l'armée, mais enquête de journalistes, en particulier de Yediot Aharonot, le journal qui en avait parlé en premier, sur les morts comptabilisés comme victimes du Hamas le 7 octobre, mais qui manifestement auraient été tués pour certains par l'armée israélienne dans le cadre de ce qu'elle appelle la procédure Hannibal. Il s'agit en aucun cas de relativiser quoi que ce soit, mais juste de dire les choses. L'armée israélienne aurait activé cette procédure, d'après le journal, pour que les soldats ramènent, enfin, quoi qu'il arrive, empêchent les terroristes du Hamas de rentrer sur leur base arrière, et donc auraient tiré parfois sur des otages.
Écoutez, sur la procédure Hannibal, moi j'ai des... sur ce qu'on raconte là-dessus, j'ai des plus grandes réserves.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, ça veut dire... On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. À l'origine, il était question de tout faire pour empêcher qu'un otage, qu'un soldat ne soit capturé, pris en otage, et donc faire... Certains ont interprété cet état d'esprit, cette instruction, comme quoi on pouvait tuer les combattants ennemis, mais également le soldat enlevé, pour empêcher justement l'ennemi
qu'il soit pris en
de
otage,
pouvoir le négocier,
avoir une monnaie
d'échange. Le négocier, voilà. Bon, moi, j'ai des plus grands doutes là-dessus. Je crois que la majorité des soldats ne sont pas sur cette ligne-là. Tirer sur un camarade pour le tuer, c'est totalement exclu. L'armée, d'ailleurs, a elle-même démenti qu'un ordre pareil était donné.
Yoav Galland a dit qu'il y avait eu recours à la procédure Hannibal, mais je n'ai pas compris s'il avait dit dans quel cadre, le ministre de la Défense.
Récemment ?
Dans une vidéo qui circule, mais qui est un peu sortie de son contexte, je dois le dire, c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne sait pas à quel moment il dit y avoir eu recours.
Mais pour moi, mon hypothèse, c'est que...
Mais il y a beaucoup de... En fait, beaucoup de fausses informations.
Comme Sammy Cohen l'a très justement dit, la procédure Hannibal, c'est quelque chose qui n'a jamais été écrit, qui est de l'ordre de l'oral, en fait, et qui dit, quand il y a une prise d'otage en cours, il faut prendre toutes les mesures pour arrêter cette prise d'otage. Donc après, il y a beaucoup d'interprétations. Et à mon avis, ce qui s'est passé, parce que du coup, quand on regarde la télé israélienne, il y a beaucoup de reportages, en fait, sur ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des colonnes de pick-up le 7 octobre qui ont été détectées. Et d'ailleurs, il y avait aussi des interviews, notamment avec un pilote d'hélico qui a retransmis l'information et qui n'a pas ouvert le feu sur les colonnes. Donc ça, enfin, lui, il expliquait aussi la culpabilité qu'il avait par rapport à ça. Et ensuite, comme il y avait beaucoup de confusion, il y a des hélicos et des avions qui ont décollé, qui ont utilisé aussi des boucles WhatsApp, enfin de la localisation en fait des victimes qui avec leur téléphone pour voir un peu où qu'est-ce qui se passait et qui potentiellement aurait pu ouvrir le feu sur des colonnes de pick-up, alors qu'il y avait des otages dans les colonnes de pick-up. Par ailleurs, il y a une autre, bavure sur la libération d'un des kibbutz, donc sur l'enveloppe de Gaza, où en fait il y a une mauvaise coordination des feux. Donc du coup, il y a eu un tir de char, mais en fait ils n'avaient pas compris que les otages étaient là. Enfin, en fait, il faut quand même se rendre compte que parce que nous, on en parle dans les médias comme s'il y avait une maîtrise totale à la fois sur les chiffres, sur la coordination, etc. En fait, l'armée ne sait pas exactement toujours quoi, qu'est-ce qui se passe, de la même manière que le Hamas non plus.
Et d'ailleurs, le Mossad a pensé au tout début de l'attaque qu'il y avait 200 terroristes du Hamas alors qu'ils étaient déjà 2000. Alors en tout cas, tous les sondages montrent que les Israéliens, la société israélienne, conserve une grande confiance vis-à-vis de son armée, un grand soutien. Les généraux, pour leur part, certains tentent de faire une forme de contre-pouvoir. Ils ont été quelques-uns à dire qu'ils ne souhaitaient pas faire entrer leurs hommes dans Gazaville, par exemple, trop risqué pour les otages, trop risqué pour les soldats, y compris, c'est le discours du chef d'état-major nommé en février, Eyal Zamir. Est-ce que les hauts gradés, Sami Cohen, défendent là des valeurs ou des intérêts militaires?
Les deux, c'est évident. Je veux dire, toute armée défend ses intérêts organisationnels qui sont protéger les soldats, remplir la mission, etc. Mais ils ont aussi un certain nombre d'attachements des valeurs. Une de ces valeurs, c'est la protection des otages. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et Eyal Zamir s'est opposé au cabinet de sécurité pour dire à Netanyahou et au ministre que l'entrée dans Gaza City était à haut risque pour les otages, elle était à haut risque pour les soldats, elle était à haut risque également pour la population gazaoui. Bon, il a été, il faut le dire, il a été blackboulé par les ministres d'extrême droite qui lui ont dit, écoutez, si tu n'es pas capable de remplir cette mission, va-t'en. Bon, alors, il a décidé d'accepter la mission, mais je pense qu'il va la gérer à sa manière, avec un certain nombre de précautions. Pour les otages, il faut. C'est extrêmement compliqué de rentrer dans cette zone. On ne sait pas où se trouvent les tunnels. On ne sait pas où se trouvent les otages. On ne sait pas où se trouvent les combattants du Hamas. Et donc, à mon avis, il va être plus prudent que les ministres d'extrême droite. Ça me semble assez évident.
La lettre de 550 hauts responsables, pas seulement de l'armée, aussi du Mossad, cette lettre qui avait été adressée à Donald Trump en août, dit, entre autres, nous considérons que le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël, et notre expérience nous indique qu'Israël dispose de tout ce qu'il faut pour gérer ses capacités résiduelles de terreur à distance ou autrement. Donc, à chaque fois que l'armée Amélie Ferres s'exprime, c'est plutôt pour défendre ça, des intérêts militaires, stratégiques, les otages, les soldats également, beaucoup plus que la situation à Gaza, où vous entendez quand même ce discours-là poindre aussi?
Pour moi, au niveau de l'analyse militaire, en fait, vous avez l'opération Glaive de Fer la première année, où en fait, le niveau de menace du Hamas au terme de la première année, quand il y a une bascule d'efforts vers le Liban, donc vers le nord, et qui en fait, il y a une régionalisation du conflit avec les frappes qu'on connaît, donc Liban, mais aussi Iran, puis Qatar, Yémen. En fait, le niveau de menace est significativement beaucoup plus bas. Et d'ailleurs, là, on a une opération qui a un nouveau nom. C'est Chariot de Gédéon. Donc, en fait, on est quand même dans autre chose, il me semble. Après, il y a toujours des oppositions en Israël au niveau historique. Et Sami Cohen, je parle sous votre contrôle, entre les généraux et le pouvoir politique, notamment sur un peu la question du jour d'après, c'est-à-dire que faire? Est-ce qu'il faut prendre le contrôle de Gaza? Est-ce qu'il faut conquérir Gaza? Donc là, il y a quand même des oppositions. Mais pour moi, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, l'impression générale pour le public israélien, c'est que le Hamas ne veut pas faire une négociation et relâcher les otages, et que donc, pour relâcher les otages, il faut passer par une opération militaire. Et la propagande du gouvernement israélien, de Netanyahou, quand on écoute, c'est l'idée de « on est à un pouce de la victoire totale ». Donc ça, il le répète en permanence, encore un effort, on y est presque, on va faire la « complete victory », donc la victoire totale, etc. Et en fait, le problème, c'est que, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse de chercheuse, il me semble que si la base de Netanyahou est encore forte, et que les gens adhèrent à cette idée de encore un effort et on va vers la victoire et on va du coup contraindre le Hamas militairement. Je pense que les généraux, eux, voient qu'il y a autre chose qui se trame. Et cette autre chose, c'est précisément l'ambiguïté sur le grand Israël et sur la finalité de l'opération militaire. Est-ce qu'on utilise l'armée pour libérer les otages, détruire le Hamas, ou est-ce qu'on l'utilise pour conquérir la bande de Gaza?
Et ça, à ce sujet, que ce soit la bande de Gaza ou la Cisjordanie, d'ailleurs sur laquelle l'armée a aujourd'hui ce que l'association, l'ONG B'Tselem, appelle la doctrine Gaza, donc y compris en Cisjordanie, une nouvelle forme de harcèlement de la population palestinienne, une stratégie d'épuisement des Palestiniens face aux colons. Et ça, qu'est-ce que les équilibres dans l'armée ont changé, Sami Cohen, ces derniers temps? Parce que vous parlez d'un poids de plus en plus fort du religieux dans l'armée, de sionistes religieux qui ont intégré l'armée.
Ce n'est pas un phénomène nouveau, hein. C'est un phénomène qui date de deux ou trois décennies déjà.
Les années 80.
Oui, ça a commencé, c'est un processus qui commence dans les années 80. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on en a dit, une pression des sionistes religieux pour occuper des postes clés dans l'armée. En fait, l'armée avait besoin de forces vives, nouvelles, étant donné que toute une partie des générations antérieures qui venaient de la gauche, qui venaient des kibboutzim et qui formaient l'essentiel de l'encadrement de l'armée, se sont éloignés de l'armée et sont allés vers d'autres missions, vers d'autres formations, de formations technologiques. Et donc, il y avait un besoin de combler ce vide. Et donc, on a fait appel à des nouveaux immigrés, on a fait appel à des orientaux, on a fait appel à des sionistes religieux. Et il faut dire que ça a tellement bien marché que les sionistes religieux, aujourd'hui, encadrent la plupart des unités d'infanterie d'élite. Sayed, Golani, Chaldag, etc. C'est des sionistes religieux qui ont tendance, bien entendu, à extrémiser un peu les comportements à avoir une attitude extrêmement radicale, violente envers les Palestiniens, qui pousse à la réoccupation, mais à la réinstallation de colons de la bande de Gaza, les colons qui avaient été évacués par Ariel Sharon en 2005. Bon, et tout ça, bien entendu, ça crée quand même une force radicale. Il y a des commandants qui sont arrivés aujourd'hui au stade de généraux des commandants de division.
Donc ils peuvent donner leur avis, ils ont un véritable pouvoir.
Ils ont un pouvoir très important sur le terrain.
Donner
et donc souvent, dans certains secteurs, sous certains commandements, il y a des généraux qui donnent des ordres de riposte, de réaction. Lorsqu'une unité voit arriver un civil, l'ordre est de tuer le civil, alors qu'on ne sait pas si le civil est un combattant du Hamas ou c'est un pauvre Gazaoui avec ses enfants qui s'est égaré, qui cherche sa voie. Et donc, dans ce genre de situation, il y a un minimum de précautions à prendre. Et ce genre de précautions, un certain nombre de commandements ne veulent pas les prendre. Ils disent, vous sentez menacé, vous voyez un civil avancer, dans votre secteur, vous tirez. Ce qui est contraire au droit international.
Les sionistes et à la morale, cette morale de l'armée que vous avez tant étudiée, Sami Cohen, les sionistes religieux dont on rappelle qu'ils se distinguent des ultra-orthodoxes, les ultra-orthodoxes ne veulent pas faire leur service, les sionistes religieux, eux, sont très attachés pour beaucoup à l'armée, ils ont d'ailleurs deux ministres au pouvoir qui les représentent, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui a dit à tous ceux qui ont pu signer des pétitions jusque-là ou des lettres ouvertes, de partir, de quitter l'armée si ça ne leur plaisait pas. Et on fait pression aussi sur le gouvernement.
Sachant que les deux n'ont pas fait l'armée.
Et eux, ils n'ont pas fait l'armée. C'est évidemment très important à rappeler, ils n'ont pas fait l'armée. Donc les sionistes religieux ont à la fois des ministres qui mettent de l'huile sur le feu et également des rabbins dans l'armée.
Tzal est l'armée la plus morale au monde. Nous ne voulons détruire ni la population de Gaza, ni les personnes qui ne nous attaquent pas. Mais la morale du judaïsme le dit. Si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le avant. Cette guerre est la guerre la plus juste qui existe dans le monde.
Armée la plus morale du monde, guerre la plus juste dans le monde. Venons-y, Sami Cohen. D'abord, ces rabbins qui officient dans l'armée, alors ils sont plusieurs, mais il y a un grand aumônier militaire. Quel est son rôle aujourd'hui dans l'armée?
Le grand aumônier militaire, traditionnellement, sa fonction était de fournir un certain nombre de services aux conscrits, les services de les prières, l'aide à ceux qui souhaitaient avoir une nourriture cachère, services d'enterrement, etc. Mais avec le temps, et surtout après la guerre des Six Jours, l'aumônier militaire s'est impliqué davantage dans les questions opérationnelles. Donc on a vu des aumôniers accompagner, au moment notamment de plan Durcy en 2008-2009, accompagner des unités pour la frontière pour leur remonter les morales, les conforter moralement, leur dire qu'ils menaient une guerre sainte. Bon, ce qui n'est pas leur rôle de s'impliquer, je dirais non seulement opérationnellement, mais quasiment politiquement. Mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, étant donné que le nombre de soldats et d'officiers religieux s'est accru. Et donc, il y a un besoin. Ces jeunes ont besoin de réconfort spirituel, de réconfort religieux. Et donc, le chef d'état-major de l'armée est obligé d'ouvrir un peu les vannes et de permettre la connexion entre les rabbins et les conscrits.
Rabbin qui invoque la morale juive pour dire que l'armée israélienne est la plus morale du monde. Que sont devenus, je vous pose la question à tous les deux, bien sûr, tous ces principes. Alors, il y a par exemple le Black Flag, cette référence à l'histoire militaire d'Israël qui évoque un ordre illégal ou immoral auquel les soldats doivent refuser d'obéir. Et d'ailleurs, un groupe d'universitaires en Israël, 1300 universitaires, ont pris ce nom-là pour dénoncer les crimes de guerre commis à Gaza. Il y a la notion du shooting and crying, les soldats israéliens tireraient en pleurant, cette idée selon laquelle les Israéliens peuvent commettre des actes de violence sans enfreindre la morale parce qu'ils s'en repentront ensuite, comme le dénonce le sociologue Ron Dudai, par exemple israélien. Que sont devenus ces principes qui, très certainement on peut en discuter, n'étaient pas toujours appliqués, mais existaient? Est-ce qu'ils sont encore enseignés, Amélie Ferret?
Mais en fait, ils sont encore enseignés. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la société israélienne n'est pas une société qui est coupée du reste du monde. Et donc, on a une extrême droitisation de la société israélienne qui se traduit politiquement par le gouvernement actuel, par aussi d'ailleurs l'effondrement de la gauche. On a sur la question de la religion, une situation assez paradoxale où, en fait, au niveau des statistiques, les gens font de moins en moins Shabbat, par exemple, et respectent de moins en moins les règles de la cache-route, donc alimentaire, mais en même temps investissent de plus en plus le religieux comme symbole identitaire. Et moi, je l'ai vu à ma très petite échelle quand j'étais prof au lycée français de Tel Aviv, où la plupart des jeunes filles de ma classe, et c'était un lycée français, hein, s'habillaient de manière religieuse. Donc cette extrême droitisation, je dirais, et cette identitarisation de la société israélienne, elle se traduit aussi au niveau politique. Par exemple, là, il y a un nouveau chef du Shin Bet, qui sont donc les renseignements militaires, qui a été nommé et qui est un religieux, en fait. Donc, tout ça, ça fait que ces règles, qui étaient en fait des règles héritées de la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée que la conscience, en fait, qui sont faites pour éviter que, pour qu'on puisse utiliser la violence, mais sans se compromettre moralement, avec cette idée que la conscience de l'individu était plus importante que la conscience du commandement, elles sont en train de péricliter. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée, quand même, dans la société israélienne, je pense qu'il faut le dire, d'un moment historique pour permettre le grand Israël, une lecture du conflit israélo-palestinien comme un conflit religieux, c'est-à-dire c'est eux ou nous. Et donc, on est investi d'un devoir moral vis-à-vis du peuple israélien de saisir ce moment et de faire les efforts nécessaires pour arriver au grand Israël.
Donc, tout ça prend le dessus sur ce qui est à la fois de l'histoire militaire d'Israël et cette question, notamment cette idée que l'utilisation des armes doit être circonstanciée. Par exemple, Sami Cohen, c'est historiquement ce que l'armée, le dogme de l'armée, ou cette référence aux ordres illégaux ou immoraux auxquels les soldats doivent doivent refuser d'obéir le Black Flag, avec aussi tous les mythes que cela colporte. Donc, je parlais du shooting and crying, les soldats tireraient en pleurant, ou le mythe de la pureté des armes, croyance selon laquelle Israël n'agit que par légitime défense. Aujourd'hui, les soldats eux-mêmes filment leurs crimes de guerre. Avant, c'était B'Tselem qui filmait les crimes de guerre de l'armée israélienne. Là, les soldats ne s'en embarrassent même plus. Comment la guerre à Gaza et le 7 octobre sont en train de profondément modifier la morale. Vous parlez d'effondrement de la morale.
Oui. Écoutez, je dois dire qu'il y a une chose, c'est que l'érosion des principes et les valeurs morales, par rapport notamment au code éthique de l'armée qui s'intitule « La pureté des armes », l'érosion commence à se faire sous la deuxième intifada, sous l'effet du terrorisme. Là, on sent très bien comment, en fait, l'armée et même la société civile estime que face à des terroristes, il n'y a pas d'autre moyen que se défendre, étant donné et de faire des victimes civiles, compte tenu de l'imbrication entre combattants et non-combattants, le fait que les combattants se cachent dans la population civile. Bon,
il y a tous les matins d'ailleurs un briefing pour dire oui que la meilleure défense c'est l'attaque. Et
ouais,
que...
Non, mais pas seulement ça. L'idée était que, dans ce cas-là, l'armée a le droit de se défendre, de faire des victimes civiles. C'est aux terroristes de faire la part des choses et de défendre sa propre population. Et donc, cette idée-là a commencé à germer 2002-2003, s'est renforcée avec le 7 octobre, elle s'est généralisée. La plupart des combattants, sauf quelques cas particuliers, estiment que le soldat ne doit pas prendre de risques pour sa vie. Et donc, s'il y a le moindre doute, c'est tiré. Et donc, souvent, les commandants disent aux soldats, si tu t'estimes menacé, tu tires. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est libre de manière indépendante, indépendamment des règles d'engagement, de tirer comme bien lui semble. C'est une instruction extrêmement sérieuse, extrêmement grave.
Dans le livre de Marie Semelin, par exemple, il est écrit « Le commandant raconte en boucle l'histoire du vieux venu demander de l'eau et une fois proche des soldats, il a sorti une grenade. Les terroristes se cachent derrière les faibles, planquent des otages et des réserves de munitions dans les hôpitaux et se déplacent en ambulance. » D'où ces règles qui sont devenues presque très claires pour les soldats israéliens. Ceux qui choisissent de rester à Gaza sont des cibles parce que ceux qui n'avaient rien à se reprocher sont partis. Amélie Ferret, combien de soldats aujourd'hui font l'objet de sanctions de la part de l'armée ou de procédures judiciaires, y compris à l'étranger, parce qu'il y a plein d'associations, d'ONG qui pistent en quelque sorte les soldats qui se sont affichés comme étant des crimes de guerre et qui essaient de les poursuivre dès qu'ils quittent Israël.
Tout à fait. Alors, il y a deux points dans ce que vous disiez. Le problème et pourquoi on en est aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, c'est parce que l'armée israélienne, à mon sens, a fait une erreur fondamentale lorsqu'elle a fait son offensive terrestre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas évacué la population de Gaza. À Mossoul, à Mariupol, des théâtres urbains, il y a eu des corridors pour évacuer les civils. Et en fait, oui, c'est compliqué de faire du triage de la population, mais Israël sait faire du triage de la population. Moi, quand j'ai fait mes entretiens, ils me l'ont dit, puisque ils ont des drones, ils font de la reconnaissance faciale, et justement, ils arrivent à trier quand ils évacuent certaines petites portions de Gaza pour justement faire en sorte que d'être sûr. Déjà, ils prennent beaucoup de prisonniers, mais aussi pour être sûr que le Hamas ne transporte pas des otages habillés en femmes voilées, comme ils m'ont dit que ça a été le cas, etc. Donc l'argument de, si vous voulez, des Gazaouis qui restent, en fait, les Gazaouis ils peuvent pas trop partir puisqu'il n'y a pas de corridor humanitaire. Sur la question des poursuites judiciaires, ça c'est un des faits qu'on, en fait, on savait déjà qu'il y avait ça, mais ça s'est accentué lors de cette intervention. C'est la manière dont la présence de capteurs et en particulier de téléphones portables partout sur le champ de bataille à la fois impacte la guerre des récits, mais impacte également l'environnement judiciaire dans lequel les soldats évoluent, puisque par exemple Al Jazeera, ils ont collecté tous les vidéos qui ont été publiées sur le conflit, les ont liées en identifiant les personnes et il y a énormément de plaintes qui sont en cours à la fois en France, voilà. Et je termine simplement pour dire que c'est important. Pourquoi ? Parce que je pense que ça explique le désespoir d'une partie des Israéliens aujourd'hui qui se disent en fait, on est dans une situation inextricable. Il n'y a pas de solution. Il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Et en plus, qui se disent aussi pour partie, est-ce qu'on va pouvoir vivre avec la culpabilité de ce qu'on est en train de faire à Gaza ? Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à interagir avec le monde ? Parce que le monde nous renvoie cette culpabilité. Et on a pléthore de vidéos, justement, d'Israéliens qui partent au Brésil ou en Grèce, etc., qui se font prendre à partie soit par les autorités, soit simplement par des gens, qui, à mon avis, symbolisent ce sentiment, en fait, de désespoir. Je dis pas ça pour minimiser ce qui se passe, hein, mais je pense que c'est important de le dire factuellement, de désespoir de la population israélienne.
Et il y a eu, par exemple, un soldat israélien qui était parti en vacances au Brésil, qui a été pisté par une ONG, je crois, en Belgique. Finalement, il a été averti assez tôt par l'ambassade d'Israël au Brésil. Il a pu prendre un vol pour Israël. Il a ainsi échappé aux poursuites. En tout cas, il y a une question morale qui se pose aussi pour de nombreux Israéliens, vous le rappelez, Amélie Ferret, également pour certains militaires qui sont passés par l'armée et qui ne veulent plus de ça, qui ne veulent plus de cette guerre à Gaza et qui dénoncent les crimes de guerre. Ce sont les refusniks que Martin Barzilai a rencontrés.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Je m'appelle David, j'ai 28 ans, je suis réserviste à l'armée israélienne et j'ai signé la lettre de l'arrêt immédiat de la guerre pour libérer les otages et pour arrêter le massacre des Palestiniens à Gaza. Pendant l'armée, j'ai compris déjà que l'armée, c'était pas tout à fait comme ils m'ont présenté dès le départ. C'est un peu bizarre tout ce qui se passe dans l'armée israélienne et j'ai compris en fait que ça vient du fait que c'est devenu d'une armée de défense, c'est devenu une armée de conquête, une armée de un peu d'apartheid, une armée de colons.
Un réserviste rencontré par le média Blast, David Selman, a choisi de ne plus combattre pour une armée qu'il considère comme d'occupation, refuser de faire son service militaire ou aujourd'hui refuser d'effectuer son mois de réserve annuel à Gaza. Tous les refusniks que vous avez rencontrés, Martin Barzilai, évoquent des cas de conscience, des considérations morales. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes photojournaliste, auteur de l'ouvrage « Nous refusons », dire non à l'armée en Israël, paru cette année aux éditions Libertalia, une sorte de deuxième tome post 7 octobre d'un premier livre que vous aviez déjà fait paraître en 2017, une galerie de portraits. D'ailleurs, est-ce que depuis le 7 octobre, les sanctions et les peines à l'égard des refusniks ont été durcies ?
Effectivement, depuis le 7 octobre, les personnes qui refusent de faire l'armée, leur service militaire, très exactement, donc à l'âge de 18 ans, et qui le font de façon officielle en clamant haut et fort qu'ils sont contre justement cette politique d'occupation et cette politique d'apartheid, subissent donc des peines de prison militaire plus importantes que par le passé, qu'avant le 7 octobre. En particulier, on peut parler de Itamar Greenberg qui a passé plus de 6 mois en prison militaire.
Un refusnik que vous avez rencontré qui est très particulier parce que c'est un ancien ultra-orthodoxe. Mais...
Voilà, il est issu d'une famille ultra-orthodoxe et donc lui, il a passé plus de 6 mois en prison militaire alors qu'avant le 7 octobre, c'était plus des peines de 3 à 4 mois, sachant que c'est un petit peu compliqué puisque l'armée ne reconnaît pas le statut d'objecteur de conscience et que donc, quand ils annoncent à l'armée qu'ils ne veulent pas faire leur service militaire, ils sont mis en prison militaire parce que ils refusent d'obéir à un ordre et non pas parce que ce sont des opposants, disons.
Donc ils peuvent faire des allers-retours infinis en prison parce qu'ils peuvent redésobéir selon l'armée à un ordre en se redéclarant objecteur de conscience.
Exactement, totalement.
Et en général, ça s'arrête quand ?
Ça s'arrête à partir du moment où l'armée décide de proposer aux refusniks un papier sur lequel on le déclare comme ayant des problèmes d'ordre psychologique, psychiatrique.
Voilà. Et donc, il est réformé pour des raisons psychologiques. Il existe bien une commission pour l'objection de conscience, mais c'est une coquille vide, vous nous l'aviez raconté il y a déjà 2 ans dans un épisode de Culture Monde. Et de plus, invoquer les droits des Palestiniens n'est pas retenu comme raison valable, mais classé comme militantisme politique. Alors, beaucoup de ces refusniks que vous avez rencontrés, photographiés, Martin Barzilai, ont été élevés dans des milieux de gauche, pacifistes, qui ont appris, les parents ont appris à leurs enfants qu'il fallait respecter les Palestiniens, pour le dire vite, mais pas tous. Et leur profil est intéressant. intéressant leur parcours. Parlez-nous par exemple de Yuval Green. Il a 27 ans, 26 quand vous le rencontrez à Tel Aviv en juillet 2024. Après son service militaire, il avait décidé de quitter l'armée, mais de ne pas faire son, service de réserve, mais advient le 7 octobre. Au départ, il change d'avis, il se dit qu'il va y aller.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, il se pose la question de savoir s'il va faire sa réserve ou pas, et advient le 7 octobre. Et il décide d'y aller parce qu'il pense que c'est nécessaire pour contenir le Hamas, pour récupérer les otages. C'est une personne qui, comme beaucoup d'Israéliens, croit qu'il faut qu'Israël ait une armée, contrairement à d'autres refuseniques. Il se retrouve donc à Gaza, en train de faire son service. Et puis, lui, ce qu'il choque dans un premier temps, c'est le niveau de destruction. D'autant plus que à chaque fois que son unité s'installe dans une maison, le but ensuite, une fois qu'il change d'emplacement, c'est de détruire la maison en partant. Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il pose la question à chaque fois. Les réponses qu'il reçoit de ses supérieurs ne le convainquent pas.
Son supérieur lui dit parce que il pourrait récupérer notre matériel militaire qu'on a oublié. Il dit allons le récupérer alors.
Exactement,
ce matériel.
Tout à fait. Et donc il comprend qu'en fait on brûle les maisons, on les détruit juste par vengeance finalement par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc pour lui, c'est pas possible de manquer de sang-froid comme ça de la part de ses supérieurs. Et donc, il décide d'arrêter de faire sa réserve et de signer par la suite une lettre avec une quarantaine de réservistes au moment de l'offensive sur Rafah.
Et c'est important pour lui de vous dire qu'il n'est pas le seul à s'être opposé au vandalisme des maisons palestiniennes dans son unité parmi les autres soldats. Il précise aussi que, comme beaucoup d'Israéliens, ils pensent, vous le disiez, qu'Israël a besoin d'une armée toute ta vie. Tu entends des histoires sur comment ce pays a failli disparaître après l'attaque des pays arabes, c'est ce qu'il vous dit. Et c'est justement parce que lui considérait son père comme un héros de la guerre de 67 qu'un autre refusnik que vous avez rencontré, Shen Alon, 65 ans, a d'abord été un soldat convaincu et zélé avant de changer d'avis.
Tout à fait, il a donc fait commencer son service militaire en 1987. Il a fait 4 ans de service puisqu'il est devenu officier assez rapidement. Et puis pendant 10 ans, il va faire sa réserve dans les territoires occupés, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Effectivement, il le dit lui-même, il va commettre plusieurs centaines de crimes. Il va aller chercher des enfants dans leur lit chez eux. Il va utiliser du gaz lacrymogène, etc. Il va, en tout cas, selon lui, il a fait des choses que la morale réprouve. Ça va être jalonné de moments de prise de conscience où
il y a un moment intéressant, c'est une nuit, c'est justement cette nuit-là où c'est un jour de 89 ou 90, il reçoit un cocktail Molotov sur la Jeep qu'il conduit. Les services de renseignement prennent le dossier en main, l'amènent en pleine nuit dans une maison pour arrêter l'auteur du tir, et c'est un enfant, 9-10 ans, il l'arrête, et dans la nuit, les hommes de Shen Alon le réveillent, disent que cette arrestation leur pose une question morale, c'est un enfant, et lui répond, écoutez, on obéit aux ordres qui viennent d'un état démocratique, alors s'ils disent que c'est un terroriste, bonne nuit, mais ce sera le début de sa prise de conscience.
Voilà, c'est ça, ça commence quand même très tôt, mais en même temps, ça l'empêche pas de continuer finalement à faire sa réserve. Et il va avoir aussi des moments un petit peu de dissociation, entre guillemets, puisque en même temps, il est acteur, il joue dans une pièce qui prône la révolution, et en même temps, le soir même, il va enfiler son uniforme pour aller dans un checkpoint à Gaza et empêcher des gens de passer, en particulier des gens qui voudraient aller à l'hôpital. Et donc là, à un moment donné, ça fait beaucoup, et c'est en 2001, si je me souviens bien, ou en 2002, il va se retrouver dans une mission qui va être en gros au service des colons. Et à ce moment-là, il donne très peu d'importance aux vies humaines palestiniennes.
En Cisjordanie.
En Cisjordanie, voilà. Mais par contre, il est furieux, et d'autres officiers sont furieux avec lui, parce que finalement, ils ont obéi à des ordres, ils ont fait une mission, ils ont participé à une mission qui n'était là que pour favoriser finalement la présence des colons illégaux. Donc il est furieux, il va écrire une lettre à ses supérieurs, au chef d'état-major de l'époque pour dire que c'est pas possible. Et quelques mois plus tard, il va complètement refuser sa réserve et se retrouver juste finalement très peu en prison, juste un mois en prison militaire pour son refus.
Il raconte beaucoup d'autres choses, comment il s'est rapproché aussi d'anciens combattants palestiniens qui ont décidé un jour de renoncer à la lutte armée pour ne plus tuer des innocents. Ils ont fondé ensemble Combatants for Peace. Vous l'avez revu après le 7 octobre. Alors, il était très choqué, bien sûr, après les attaques du Hamas. Il dit qu'il a reçu beaucoup, beaucoup d'appels toute la journée de ses amis israéliens, mais plus encore de ses amis palestiniens. Il n'a pas changé d'avis pour autant.
Bien sûr. D'ailleurs, il le dit aussi que dans Combatants for Peace, il s'est fait, il a son meilleur ami palestinien. Et puis c'est quelqu'un qui, depuis sa prise de conscience en 2002, est devenu un grand activiste, au sein de Combatants for Peace, mais également dans les manifestations. Vous parliez hier du bloc anticolonial avec Karine Lamarche. Voilà, lui, il en fait partie. Et donc c'est quelqu'un qui évidemment, le 7 octobre, ça ne va pas le faire changer d'avis. Au contraire, finalement. Hein, c'est comme beaucoup d'autres activistes, il avait en quelque sorte prévenu la société israélienne du fait que enfermer 2 millions de personnes dans une prison à ciel ouvert, ça pouvait avoir des conséquences dramatiques.
Mais le groupe Combatants for Peace a aussi été éprouvé depuis le 7 octobre. Il y a des Israéliens qui ont finalement rejoint l'armée pour défendre Israël et des Palestiniens qui ont défendu le Hamas, donc certains se sont fâchés, certains sont partis, mais un noyau dur subsiste qui garde ce cap de la non-violence. Un tout petit mot de conclusion et également pour en faire dire un mot à Sami Cohen et à Amélie Ferret, vous avez aussi rencontré des gens qui refusent pour d'autres raisons que morales ou politiques, en particulier pour votre livre de 2017.
Oui, il y a aussi des gens qui refusent pour des raisons économiques, parce qu'en fait, la paye de soldats de base, elle est très basse, et on doit... Il y a beaucoup d'Israéliens, d'Israéliennes qui, en fait, se retrouvent à faire l'armée en journée et à être serveurs ou serveuses le soir. Et quand on doit subvenir aux besoins de personnes d'une famille, ben on n'a pas les moyens, donc on fait des allers-retours finalement en prison militaire pour essayer de travailler le plus possible et de faire l'armée le moins possible, par exemple.
Oui, merci beaucoup Martin Barzilay. Nous refusons dire non à l'armée en Israël. Votre livre et de portraits et de textes apparu aux éditions Libertalia. Merci d'avoir été avec nous. Un tout petit mot de conclusion, Sami Cohen, pour réagir à ce que vient de raconter Martin Barzilay.
C'est tout à fait intéressant tout ça. Et moi, ce qui me frappe, c'est le fait que les soldats contestataires d'aujourd'hui, et notamment concernant la guerre du 7 octobre, n'ont pas embrayé sur la société, ils n'ont pas réussi à produire des mobilisations de masse. En octobre 1974, après la guerre du Kippour, il y a eu des manifestations très importantes qui ont conduit à la démission de la Première ministre Golda Meir. En 82, au moment de la guerre du Liban, il y a eu un mouvement très important d'objecteurs de conscience, il y a Gvoul. Aujourd'hui, on ne voit pas ces mobilisations de masse. Voilà ce qui me semble important.
Amélie Ferret, vraiment en deux mots, combien de morts aujourd'hui, combien de soldats israéliens sont morts au combat depuis l'invasion terrestre de Gaza qui a suivi le 7 octobre ?
On est sur, moi en tout cas dans les chiffres de l'étude, c'était sur la première année, on est sur à peu près 300-400, mais j'ai plus les chiffres à jour aujourd'hui. Donc il faudrait re-regarder, mais simplement sur cette question-là. Moi je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'on a quand même une armée, celle qui est au contact, c'est-à-dire celle qui vraiment est dans Gaza, c'est quand même d'abord des gens qui sont très jeunes. Et les gens qui sont très jeunes, comme ça a été rappelé d'ailleurs dans le reportage sur les réfugiés, c'est pas forcément des gens qui ont les ressources critiques, je veux dire en termes de constitution intellectuelle et économique et financière, pour refuser. Mais ça veut pas dire que il y a pas des crimes qui sont en train d'être commis et que potentiellement il y aura pas de contestation par la suite.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Amélie Ferret. Je rappelle que vous venez de faire paraître, c'est aujourd'hui, une note avec Pierre Néron-Bancel, le rapport Glaive de fer, une analyse militaire de la guerre d'Israël à Gaza, dans la collection Focus stratégique de l'IFRI. C'est plus qu'une note, c'est une grande étude. Merci beaucoup Sami Cohen. Tuer ou laisser vivre Israël et la morale de la guerre, votre livre a paru aux édition Flammarion cette année. Et merci beaucoup Martin Barzilay, dont j'ai rappelé les références également. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous emmenez, Catherine, en Afghanistan ce matin, où les talibans ont coupé Internet.
Et ce, jusqu'à nouvel ordre, rapporte la Deutsche Welle. La population afghane est coupée du monde, encore plus privée de liberté, souligne Afghan International, un sujet, vous le savez, qui me tient à cœur. Puisque des médias internationaux ont perdu le contact avec leur bureau à Kaboul, expliquent la BBC et Al Jazeera, ce sont notamment les observations de groupes comme NetBlocks, qui surveillent la connectivité mondiale et la cybersécurité, qui ont lancé l'alerte. Cette coupure nationale des télécommunications mobiles, Internet, est inédite depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, note le Washington Post. Les islamistes ont fini par couper les connexions Internet au débit afin de prévenir, disent-ils, le vice et l'immoralité sur ordre du chef suprême qui cherche à appliquer la charia, explique la BBC. Une restriction à l'échelle nationale était en discussion depuis plusieurs jours, confie au Washington Post un responsable taliban basé hors d'Afghanistan. Il reconnaît qu'on ne peut pas vivre sans Internet. Tout est à l'arrêt en Afghanistan depuis que la fibre optique a été coupée, ce que confirme depuis le Pakistan voisin, le quotidien Dawn. Plus de 43 millions de personnes sont désormais hors ligne. Les avions sont aussi cloués au sol. Cette coupure des communications d'Internet perturbe également les programmes de santé et empêche les opérations bancaires. Des entreprises ont dû fermer à Kaboul, rapportent Al Jazeera et le Washington Post. Plus de télévision par satellite, plus d'accès à des sites d'information. Toute la population afghane est privée de cette fenêtre vers le monde. Mais ce sont les femmes qui en souffrent le plus, s'accordent à dire la BBC, le Washington Post, ABC News et les Nations Unies, car l'éducation en ligne était, pour de nombreuses femmes et jeunes filles, une bouée de sauvetage pour ne pas sombrer sous le joug des talibans.
De jeunes afghanes en ont témoigné d'ailleurs auprès de médias internationaux avant la coupure des télécommunications.
Mais elle pourrait aussi se retourner contre eux, estime le Washington Post, aggravant la frustration de l'opinion publique envers le régime et enhardissant les critiques. À titre personnel, j'ai aussi une pensée ce matin pour ces Afghanes qui défiaient les talibans en organisant des clubs de lecture clandestins dans l'ombre de Kaboul ou depuis l'exil. Je vous en avais parlé le 17 septembre dernier, un sujet qui vous a d'ailleurs particulièrement marqué sur les réseaux sociaux et par mail à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Ces femmes afghanes, lisez, débattez et partager numériquement des ouvrages interdits, transformant des bibliothèques fermées par les talibans en réseaux de résistance. Aujourd'hui, l'avenir est bien sombre en Afghanistan, confie à la Deutsche Welle Sahar. Une jeune Afghane, mais dit-elle, après la nuit vient l'aube. Peut-être réaliserons-nous nos rêves un jour et de toute manière, confie-t-elle, sans espoir, la vie est impossible.
Et la coupure d'Internet pourrait aider les talibans à consolider leur emprise sur le pouvoir.
Fahima Nouri avait de grands rêves lorsqu'elle a obtenu son diplôme de sage-femme. Elle avait même travaillé dans une clinique, décrit la BBC, mais tout cela a pris fin lorsque les talibans sont revenus au pouvoir il y a 4 ans. Ils ont interdit depuis aux filles d'aller à l'école au-delà de 12 ans. Les femmes sont exclues de la plupart des emplois, des parcs publics, salles de sport, des bibliothèques et des cafés, énumère El País. Bref, de la vie publique, résume la BBC. Les livres écrits par des femmes ont également été bannis des universités et pour Fahima, que la BBC a donc pu interroger avant la coupure des communications. Internet était son dernier lien avec le monde extérieur. La jeune Afghane s'était récemment inscrite dans une université en ligne, son dernier espoir d'apprentissage. Aujourd'hui, même ce rêve a été anéanti.
This basically turns Afghanistan into what North Korea was 20 years ago. It's a dead zone, it is black.
L'Afghanistan ressemble à ce qu'était la Corée du Nord il y a 20 ans. C'est le noir complet, déplore la journaliste et autrice Lynn O'Donnell sur ABC News, la télévision publique australienne. J'ai essayé, dit-elle, de contacter des gens ce matin, pas seulement sur WhatsApp, mais aussi sur des lignes téléphoniques ordinaires, mais tous les appels sont coupés, plus rien ne passe. Alors, cela touche les gens ordinaires, bien sûr, mais encore plus les femmes qui sont sans travail, sans argent. Elles regardent leur fils aller à l'école dans un système éducatif contrôlé par les talibans. Impossible de quitter l'Afghanistan désormais, impossible d'y faire entrer ses proches, on ne peut qui imaginez l'impact psychologique. Et puis, une autre chose se joue. Al-Qaïda est très actif en Afghanistan et gère de nombreux camps d'entraînement djihadistes où des islamistes du monde entier viennent s'entraîner. La coupure des télécommunications empêche aussi de savoir ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, relève ABC News. En tout cas, Al Jazeera craint que ces coupures de télécommunications n'aggravent les difficultés économiques des Afghans. Et l'ONU appelle à rétablir les communications, à fournir une connectivité critique, ne serait-ce que pour les équipes humanitaires, dans un pays qui panse encore ses plaies après le séisme meurtrier du mois dernier, rappelle le Time Magazine et Al Jazeera.
Merci beaucoup Catherine Dutu.